Des envies et des rêves, on en a plein qu'on n'a pas encore réalisé, mais on sait qu'on va, réussir à le faire. J'ai pas ce ressenti de limite du fait qu'il est en fauteuil roulant. C'est différent, faut s'adapter, faut trouver d'autres solutions. Mais j'ai pas aujourd'hui ce sentiment de me dire que parce que je suis avec lui et qu'il est en fauteuil roulant, il y a des rêves que je vais pas pouvoir réaliser. Bien au contraire.
4 personnes en situation de handicap sur 5 se sentent fortement exclues de nombreux domaines de la vie. De l'isolement au regard des autres, du travail au loisir, de la charge mentale pour aller aux toilettes ou au restaurant, de la sexualité au logement et j'en passe, nos témoins partagent leur quotidien. Bienvenue pour cet épisode de notre podcast « Écoutez pour voir », une invitation à briser les barrières invisibles pour que le droit d'exister ressemble plus à une évidence qu'à un combat. Marlène et Baptiste nous font l'honneur de partager avec nous leur histoire. À l'âge de 19 ans, Baptiste a eu un accident de moto. Il est resté paralysé du torse jusqu'aux pieds. Marlène et sa compagne depuis 2 ans cet été. Il et elle parlent de leur quotidien, du regard des autres, d'une aventure extraordinaire en forêt ou encore de leur état d'esprit. Toujours aller de l'avant et réaliser leurs rêves. Un grand merci à la Fondation Suisse pour Paraplégique, dont le soutien a rendu la réalisation de cet épisode possible. Bonjour Baptiste, bonjour Marlène. Merci à vous deux d'être là aujourd'hui pour cet épisode d'Écouter pour voir. Baptiste, veux-tu bien commencer en nous racontant un peu ton histoire ?
Oui, déjà merci beaucoup pour l'invitation et de pouvoir venir en couple. C'est génial de pouvoir partager ce moment ensemble. Et oui, moi alors j'ai eu un accident de moto quand j'avais 19 ans. Et en fait, j'ai perdu la maîtrise de ma moto, j'ai glissé, la route était mouillée. Et puis, j'ai tapé contre un trottoir. Je me suis fait éjecter de la moto. Et puis, j'ai tapé, on ne sait pas très bien si j'ai tapé contre le poteau d'amarrage ou contre un bateau. C'était au Bouvray, à la marina. Il y a un endroit où il y a des immeubles et il y a des petits bateaux à côté. Et en fait, à ce moment-là, j'ai tapé entre le casque et la protection dorsale. Et c'est là que j'ai écrasé ma moelle épinière. Et que je suis arrivé dans l'eau, en fait. Donc c'est assez particulier, je me suis fait éjecter de la moto, j'ai tapé soit contre le bateau, poteau d'amarrage, je suis tombé dans l'eau, et j'étais déjà, du coup, paralysé. Et en fait, au niveau du torse, je suis paralysé. Donc du torse jusqu'au pied, j'ai plus aucune sensibilité. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu de la chance, parce que j'aurais pu me noyer. J'avais mon casque qui prenait l'eau, j'avais la veste de moto, les bottes de moto. Et en fait, je me débattais comme je pouvais pour rester un peu au-dessus de l'eau, en fait, et puis me rapprocher du bord. Et puis j'étais avec d'autres copains en moto, et il y en a un qui m'attirait dehors de l'eau. Et je me souviens qu'il me regarde avec des grands yeux, et il me dit, je dis, qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, non, rien, je dis, vas-y. Il me dit, t'as la jambe droite, j'avais la jambe droite qui était à l'envers, donc j'avais cassé le fémur. Et puis j'ai dit, ah, ça je sens pas, j'ai pas mal, par contre je sens que j'ai vraiment très très mal au dos en fait. Donc j'avais des vertèbres qui étaient cassées et la moelle épinière était écrasée. C'est pour ça que j'avais plus de sensibilité au niveau du torse jusqu'au pied. Et puis après il y a une ambulance qui est arrivée et puis très rapidement ils ont appelé l'hélicoptère et ils m'ont héliporté au CHUV à Lausanne, c'est là qu'ils m'ont opéré.
Et ensuite, comment s'est passé tout le processus ?
J'ai fait l'opération et ensuite je suis resté 4 jours au CHUV. Et puis ensuite, ils m'ont héliporté à Sion, aux soins intensifs. Et puis j'ai fait une semaine aux soins intensifs là-bas. Donc, ouais. Et après, j'ai fait ma rééducation à la Souva de Sion. Donc, c'est là-bas où j'ai fait 8 mois et demi de rééducation.
Marlène, de ton côté, comment as-tu rencontré Baptiste ? Et puis, combien de temps ça fait que vous êtes ensemble ?
Alors, ça va faire 2 ans cet été. Et on s'est rencontrés sur Tinder. Donc moi, je suis française, donc on ne vivait pas du tout au même endroit. Et en fait, Baptiste a été amené à venir dans ma région avec une amie à lui qui est dresseuse de chevaux. Et donc c'est là qu'il a liké mon profil. Et moi, je l'ai vu seulement quelques semaines plus tard quand il était déjà retourné en Suisse à la maison, quoi. Et c'est vrai que de prime abord, on s'était dit, bon, on habite loin l'un de l'autre. On était tous les deux ouverts à rencontrer des nouvelles personnes, juste pour le plaisir de découvrir des gens, en fait. Et on s'est dit, bah, dans tous les cas, ça ne donnera rien parce que on habite loin, donc on prend ce qu'on a à prendre, on se rencontre, et puis voilà, on ne faisait pas de plan sur la comète, quoi. Et puis, bah, moi, je suis venue pour un premier week-end, et puis après, bah, voilà, les jours se sont transformés en week-end, les week-ends en semaine, et puis me voilà ici.
Baptiste, est-ce que tu te souviens du moment où tu as vraiment pris conscience que ta vie avait basculé ? Comment ça s'est passé, la rencontre avec Marlène, dans ce contexte ?
Oui, il y a eu, je pense, trois moments comme ça pour moi qui ont été importants dans cette prise de conscience. Alors, au début, c'était la première fois que le médecin m'a annoncé ce que j'avais eu. Donc, il voulait que ce soit mes parents qui l'annoncent. Mais mes parents, voilà, ne se sentaient pas de venir me l'annoncer. Donc, c'est le médecin qui est venu me dire avec mes parents et ma sœur. Et le médecin m'a dit « Bonjour, monsieur, vous vous souvenez, vous avez eu un grave accident de moto ?» Vous avez été touché à la moelle épinière, vous êtes paralysé du torse jusqu'à vos pieds. Et à ce moment-là, ils attendent ma réaction, et je regarde le médecin, et je lui dis « Oui, mais bon, il me reste encore les bras et la tête. » Et comme ça, et mes parents commencent à rire nerveusement, et ma sœur, et le médecin un peu interloqué comme ça. Donc ça, c'est vraiment la première réaction que j'ai eue. J'ai de la chance, c'est que je suis plutôt positif. Et avec mes copains, on a toujours rigolé de tout. Donc ça, ça a été vraiment le premier point, mais je n'avais pas conscience de tout ce qu'il y avait derrière, le fait d'être paraplégique et tout finalement ce que ça pouvait engendrer comme conséquence. Donc ça, c'était le premier point. Et la deuxième chose, c'est justement la première fois que j'ai voulu me retourner dans le lit et que je me suis rendu compte que je ne pouvais même pas me retourner dans le lit. Donc ça, c'était la deuxième prise de conscience, de me dire que voilà, qu'il allait avoir un long parcours pour récupérer les muscles et puis pour finalement réapprendre les gestes du quotidien, pouvoir se tourner, s'habiller, sortir du lit. Donc ça a été un deuxième point important. Et puis un autre moment qui était comme ça pour moi, qui m'a vraiment marqué, c'est un moment où j'étais au centre de rééducation, et puis je regardais par la fenêtre, et je pensais à ma vie d'avant, à ma vie d'aujourd'hui, et je me suis dit, mais en fait, je suis retourné à zéro sur tous les domaines de ma vie. Parce qu'avant l'accident, j'étais en couple, on s'est séparés au moment de, un peu après l'accident. Mon métier que j'adorais, je travaillais sur les toits, j'étais ferblantier. J'adorais ce métier-là, de pouvoir redescendre à la fin de la journée, regarder tout le travail qui a été accompli. J'étais passionné de moto, donc je roulais beaucoup en moto. Je prenais conscience que je pouvais plus rouler en moto. Donc toute mon autonomie aussi, j'avais une voiture, j'aimais bien me déplacer, être autonome, aller partir à l'aventure, à gauche, à droite. Donc à ce moment-là, vraiment, j'avais l'impression de retourner à zéro sur tous les domaines de ma vie. Donc ça, c'est un peu les gros points où j'ai pris conscience que finalement, la vie, elle serait plus complexe, que j'allais devoir retrouver des ressources pour avancer, pour évoluer dans ma vie.
Marlène, quand vous vous êtes rencontrée, tu savais qu'il était en fauteuil roulant. Est-ce que ça t'a fait hésiter ou te poser des questions au début ?
Alors, quand on s'est rencontrés, moi, j'avais un client qui œuvrait dans le domaine du handicap. Donc, ça faisait déjà un an que j'avais été confrontée à des personnes en situation de handicap et que j'ai pu un petit peu échanger avec ces personnes, voir un petit peu ce que ça impliquait dans leur vie d'avoir un handicap. Et c'est vrai qu'au moment où on s'est rencontrés, il l'a dit clairement dans son profil sur Tinder qu'il avait eu un accident de moto, qu'il était paraplégique. Et il a même une phrase dans son profil qui m'a fait rire, c'était « Compte pas sur moi pour faire le premier pas parce que je suis paraplégique ». Et du coup, bah, c'est moi qui lui ai envoyé le premier message en lui disant bah, « Effectivement, comme tu le vois, je fais le premier pas ». Et c'est vrai que bah, de prime abord, j'ai vu la personne, on va dire, j'ai eu un coup de cœur pour son regard et c'est ce que je lui ai dit tout de suite, qu'il avait des yeux magnifiques, etc. Et voilà. D'emblée, on a eu des discussions qui étaient assez profondes. On a toujours eu cette communication dès le départ. Et c'est vrai que bah, forcément, j'avais des questions, que ce soit voilà, sur son handicap, son niveau de lésion, ce qu'il pouvait faire, pas faire. Et même au niveau plus intime, après, quand on a avancé dans la relation, c'est des choses qu'on s'est dites de façon très claire pour que moi, je puisse aussi savoir quand on se voyait. Une des premières fois quand je suis venue et qu'on est allé se balader en ville à Suin, je raconte souvent cette anecdote parce que ça fait rire, c'est que il était avant moi et j'étais derrière un peu en mode je sais pas si je dois l'aider, si je dois le pousser Et je me suis dit, mais c'est ridicule, en fait, plutôt que d'essayer d'anticiper quelque chose ou de croire qu'il a certains besoins. Ben, en fait, juste à un moment, je me suis arrêtée. Je lui ai dit, bon, si tu as besoin d'aide, tu me le demandes. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, OK, alors c'est bon. Et puis la pression a l'air descendue. Je pouvais juste me balader tranquillement sans me poser la question de savoir si je devais l'aider ou pas, en sachant qu'il est parfaitement en mesure de me le demander, quoi.
Justement, tu donnerais quoi comme conseil quand on croise une personne en fauteuil roulant ? On ne sait pas toujours comment réagir.
L'idée, c'est vraiment de... Chaque personne est différente. Comme chaque personne qu'on croise dans la rue va être dans un état d'esprit différent, aura des besoins différents qu'on ne voit même pas, peut-être. Et en fait, l'idée, c'est juste de se dire, OK, plutôt que de me dire « je pense qu'il a ce besoin-là » ou « que je peux lui apporter ça », c'est de poser la question à la personne intéressée en lui disant « de quoi tu as besoin à l'instant T ?»
Et toi, Baptiste, tu comprends cette gêne que certaines personnes peuvent ressentir face au handicap ? Qu'est-ce que tu en dis ?
C'est une excellente question. Ben moi, l'ayant vécu, vu que j'étais valide avant, donc je ne connaissais pas du tout le handicap. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi après l'accident, c'est comme j'étais très libre, autonome, c'est qu'au début, je voulais pas avoir de l'aide aussi. Parce que pour moi, je voulais me débrouiller tout seul, être autonome. Et au début, s'il y avait des choses que j'arrivais pas à attraper au magasin, je voulais pas demander. Je voulais essayer de me débrouiller, soit j'achetais pas le produit, soit j'essayais de trouver un produit plus long et puis essayer de le faire tomber du rayon en haut et puis le rattraper. Et puis, je pense que ça prend un peu de temps aussi à accepter finalement ce qu'on a. Et puis accepter que c'est OK d'avoir besoin de l'aide. Et j'ai changé complètement ma manière de voir les choses. C'est qu'avant, je ne voulais pas demander de l'aide, je voulais autonome. Après, je l'ai accepté un peu plus. Et puis maintenant, c'est l'inverse. Ça veut dire que même quand je n'ai pas besoin d'aide, quand les gens au magasin me disent « Ah, est-ce que je peux vous aider ? Vous voulez attraper ça ?» Je dis « Ah oui, volontiers !» Et puis comme ça, ils m'aident parce que je vois qu'ils repartent avec le sourire finalement. Ils sont contents d'avoir pu aider. Donc j'ai une autre vision aujourd'hui de l'aide. Après, je peux comprendre que les gens n'osent pas forcément demander, parce que peut-être ça va dépendre dans quelle phase est la personne. Peut-être qu'au début, elle sera un peu dans la révolte, elle va être autonome, alors peut-être que si on va demander de l'aide, si elle a besoin d'aide d'une personne en chaise, peut-être qu'elle sera un peu agacée, ou elle dira peut-être un peu « non, j'ai pas besoin d'aide » ou voilà. Non, mais je pense que c'est important de le demander, et que si la personne, on sent qu'elle n'est pas ouverte, qu'elle n'a pas envie d'aide, c'est OK, en fait. C'est pas de la faute de la personne, c'est juste qu'elle a encore des étapes à vivre dans sa vie avant de pouvoir pleinement accepter de l'aide. Et c'est OK.
Marlène, à quel moment tu as réalisé que ta relation avec Baptiste allait être différente ? Ou est-ce que pour toi, il n'y a pas de vraie différence par rapport à une relation que certains pourraient dire plus classique ?
Alors, j'ai vu... il y a des différences quand même, et c'est vrai que je voyais quand on se baladait ensemble, en plus, il a... un système électrique qui met devant son fauteuil où parfois je m'assois sur ses genoux et puis on part à l'aventure. Et du coup, forcément, ça attire l'œil. Et je pense qu'il faut être prêt à ça aussi, accepter que les gens regardent. Souvent, c'est avec bienveillance et puis les gens nous disent « Oh, vous êtes trop mignon », etc. Mais je sens, et puis ça rejoint ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que en fait, ça dépend dans quel intérieurement, comment on se sent. C'est qu'il y a eu une fois où on est allé aux îles pour faire du kayak. Et ce jour-là, pour moi, ce n'était pas un bon jour. J'étais pas bien. C'était un peu laborieux pour amener le kayak de la voiture jusqu'au bord de l'eau. Et quand on est arrivé au bord de l'eau, il y a quelqu'un qui nous fixait. Et en soi, le reste du temps, ça ne me fait rien. Ça ne me touche pas. Je prête même pas attention. Et ce jour-là, ça m'a vraiment... Parce que intérieurement, j'étais déjà pas bien, j'étais énervée, j'étais agacée. Ça, c'était un peu le truc de trop. Et du coup, je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut, une photo ? Qu'est-ce qu'il veut ? Enfin, c'était un peu oppressant. Mais je sais très bien que si ça s'était passé un autre jour, où j'avais été à l'aise, vraiment sans aucune contrainte, etc., j'aurais certainement pris différemment. Et je pense que ce que tu disais tout à l'heure sur... comment se sentent les gens intérieurement et à quel stade ils sont, c'est aussi pareil dans la vie des gens valides. C'est que parfois, on est dans un bon jour, quelqu'un va nous regarder, ça ne va pas nous toucher. On est dans un mauvais jour, le regard, on va tout de suite l'interpréter, qu'est-ce qu'il a, il a un problème, etc. Et donc ça, voilà, plus sur le fait d'attirer l'œil, entre guillemets, il faut être prêt aussi quand on accompagne et quand on est avec une personne qu'il y a entre guillemets une différence, à accepter que les gens puissent nous regarder, mais encore une fois, c'est 90% du temps, c'est très bienveillant, et puis on a toujours des super échanges avec les personnes, etc. Après, il y a aussi l'aspect aussi intimité, c'est forcément différent en étant avec une personne avec un handicap qu'avec une personne valide, et ça, ça oblige encore une fois à être beaucoup dans la communication et d'être à l'écoute de l'autre, de savoir comment on peut faire les choses autrement, pour que chacun puisse s'y retrouver aussi et puis découvrir des nouvelles manières de faire, quoi.
J'ai une question pour vous deux. Est-ce qu'il y a un événement ou une rencontre qui vous a permis de voir le handicap autrement, comme une force plutôt qu'une limite ?
Ouais, il y a eu même plusieurs personnes tout au long de mon parcours. J'ai rencontré énormément de gens. Le premier, c'était mon compagnon de chambre quand j'ai eu l'accident, quand j'étais au centre de rééducation, et Nicolas Magnien. Et lui, c'était un bûcheron qui a eu un accident. Et puis, je me souviendrai toujours d'un moment qui m'a marqué. C'est en fait, au début, donc on n'est pas autonome pour aller à la salle de bain. On a une chaise avec des roulettes dessous et il nous amène à la salle de bain pour prendre la douche. Quand on a fini, on tire sur une corde, on attend qu'ils viennent pour nous ramener jusqu'au lit. Le jour-là, Nicolas, il tire sur la corde, sonne, il attend 5-10 minutes, personne qui vient. Et d'un coup, moi, je suis dans la chambre, et d'un coup, je le vois, il avait réussi à se pousser, en se poussant contre les murs, en avançant sur la chaise, en se tenant sur le montant de la porte de la salle de bain. Il s'est tiré, je l'ai vu arriver en roulant à fond, taper contre le lit. Et j'étais mort de rire et je me suis dit, mais en fait, c'est ça l'état d'esprit qu'il faut. C'est pas attendre que les gens ils viennent nous aider, c'est toujours aller de l'avant, essayer d'être le plus autonome possible si on a besoin, on demande. Mais cet état d'esprit, il faut l'avoir, quoi. Aller de l'avant et on avance. Et vraiment, ce moment-là, il m'a marqué pour me dire, ok, je vais être le plus autonome possible. Je ne veux pas attendre sur les gens.
De ton point de vue, Marlène, qu'est-ce qui a changé ? Évidemment, la rencontre avec Baptiste et dans ta famille, par exemple, ton entourage, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué ?
Alors, c'est vrai que l'entourage, quand j'ai commencé à parler du fait que j'avais rencontré Baptiste et que j'expliquais tout de suite son parcours de vie, etc., ça n'a pas forcément surpris, je crois. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des réactions un petit peu hallucinantes, mais plus, très. En tout cas, mes parents, mon frère, même les cousins à qui j'en ai parlé. Et quand je racontais son parcours, ils étaient très admiratifs de son parcours, de voir tout ce qu'il était en mesure de faire aujourd'hui, etc. Et même le fait qu'on puisse penser de prime abord que quand on est avec une personne qui a un handicap ou qui est en fauteuil roulant, que ça limite les possibilités, alors qu'en fait, ça ouvre des perspectives qui sont incroyables. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'envie, de rêves et de choses comme ça à accomplir que je pouvais en avoir avant. Et c'est vrai que parce que il est aussi dans cet état d'esprit où faut juste lui dire qu'il y a un truc qu'il peut pas faire, il va trouver une solution pour le faire du coup. Et c'est ça que j'adore, c'est que là où même moi je peux voir des freins, des limitations, etc., il me dit mais non, t'inquiète pas, on va toujours trouver une solution. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et je vois que c'est presque lui qui me porte et qui me tire vers le haut en me disant on peut tout faire, il y a pas de problème.
Est-ce que vous avez une anecdote à partager, un moment marquant que vous n'auriez jamais vécu sans cette relation, un truc un peu fou ou inattendu que vous avez fait ensemble?
On a été un week-end avec un ami et on a fait du pendule. Alors je sais pas si pour les gens qui se demandent ce que c'est le pendule, en fait on va en montagne, dans la forêt, près d'un pont. Et en fait, on s'est accroché. Bon, il y avait un guide, tout était sécurisé. Accroché avec des cordes de grimpe. Et en fait, on saute d'un côté du pont. Et en fait, on fait une sorte de pendule. En fait, on est au bout. Et ça, c'était. Ça faisait pas très, très longtemps qu'on était ensemble. Et déjà là, on a pu vivre ça ensemble, ce moment-là qui était vraiment chouette.
C'était incroyable. Et puis ça, moi, même si j'aime faire des choses avec des sensations, etc., jamais j'aurais pu imaginer faire ça. Et puis, quand il m'a proposé, je me suis dit, allez, go, moi, j'aime découvrir des nouvelles choses. Mais c'est vrai que j'avais du mal à imaginer comment est-ce que ça allait pouvoir se faire avec le fauteuil, comment on est en montagne, il y a de la neige, etc. Et en fait, il y avait tout un groupe d'amis de son ami. Et en fait, ça a été hyper simple. On est sorti de la voiture, tout le monde a été là pour aider. Pareil, ils lui ont demandé de quoi tu as besoin, comment on peut t'aider. Et puis, on a pu aller sur le pont. Et puis après, tout le monde s'est affairé pour aider et puis pour faire en sorte que, au même titre que toutes les autres personnes qui étaient là, il puisse aussi vivre son expérience, quoi.
Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un moment où vous avez été confronté à une vraie barrière d'accessibilité ? Quelque chose qui vous a empêché de vivre une expérience ou bien que vous avez dû surmonter ensemble ?
Bien sûr. Nous, on habite en vallée, il y a pas mal de bises qui sont magnifiques, mais souvent c'est très, très étroit. On n'arrive pas à accéder, c'est un peu dangereux. Et moi, je rêvais de pouvoir retourner aussi près de ces bises. Et il y en a un qui est juste au-dessus de Sion, le bis de Claveau. Et puis, pour moi, c'est trop dangereux. Il n'est pas fait pour les chaises roulantes. Et le fait que, on a voulu tenter l'aventure avec Marlène, on s'est dit, on essaye, on fait des petits bouts de chemin et puis on verra s'il faut. On revient en arrière et c'était juste extraordinaire. Donc, elle me sécurisait derrière, elle me tenait la chaise au moment où il y avait des cailloux, au moment où c'était trop étroit, au moment. Tout proche du bord. Et pour moi, c'était juste extraordinaire de pouvoir vivre ces sensations-là, d'être proche du vide. Comme je travaillais sur les toits avant, j'étais habitué au vide finalement. Et j'avais pas le vertige. Et là, le fait d'être tout proche du bord, comme ça, de pouvoir le vivre à deux, c'était juste magique.
C'était une très belle expérience. Bon, c'est vrai que moi, j'avais un peu la pression parce que je me disais, si là, il y a un moment d'inattention ou que t'as pas le réflexe, s'il y a un caillou ou un truc. À côté, c'est du vide, quoi. Donc, s'il tombe, c'est catastrophique, quoi. Mais c'est vrai que c'était beau de pouvoir vivre ça ensemble et puis de se dire, on tente, on se fait confiance l'un l'autre pour y aller. Et puis, si ça va pas, ça va pas. Et puis, c'est pas grave, quoi. Je pense qu'on apprend aussi à force. Les fois où ça fonctionne pas, c'est pas grave, on trouve autre chose. Moi, j'ai le cas de... on voulait faire un week-end en famille avec mes parents, mon frère, etc. Et puis, un des hôtels où on pensait pouvoir aller, parce qu'il proposait, c'est un groupe assez connu en France d'hôtellerie, et il proposait des chambres accessibles. Et moi, quand mes parents m'ont dit « oui, c'est bon, ils ont des chambres accessibles », je dis « je vais quand même appeler, parce que je sais très bien comment ça se passe, toi tu le sais encore mieux que moi ». Et donc, j'appelle et puis je dis, vous proposez des chambres accessibles. Je voulais juste m'assurer que, ce soit bien de plein pied avec une touche à l'italienne, enfin, le genre de choses qui sont un petit peu des prérequis, quoi. Et là, la personne me dit, non, en fait, il y a une baignoire. Je dis, mais comment vous pouvez dire que c'est une chambre PMR avec une baignoire? Je dis, là, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment vous voyez les choses. Et là, elle me dit, les personnes qui sont en fauteuil roulant, ils sont toujours accompagnés. J'ai dit, alors déjà, non. Avant qu'on se connaisse, il a voyagé, il est allé à l'étranger, il a été à Paris et seul. Donc non, les gens qui sont en fauteuil roulant ne sont pas forcément accompagnés. Et j'ai dit, et même si c'est le cas, ça veut dire que moi, sa compagne, je dois le porter pour le mettre dans la baignoire. J'ai dit, est-ce que vous imaginez quand même la situation ? J'ai dit, quand une chambre PMR, c'est censé être pour que la personne soit autonome. Et là, c'est pas le cas. Et donc, elle savait pas quoi dire, forcément. Mais ça, c'est des situations qu'on retrouve et que toi, t'as vécu aussi, je pense, dans tes différents voyages, etc. C'est que les personnes mettent en avant l'accessibilité sans avoir conscience de ce que c'est. Par exemple, pareil pour des appartements en montagne, etc. Les personnes disent que c'est accessible juste parce que la largeur des portes permet à une personne avec un fauteuil roulant d'évoluer dans l'appartement. Mais il y a une baignoire, il y a plein de contraintes. Mais juste parce que les gens n'ont pas conscience de ce que ça implique, l'accessibilité. Et à juste titre, on n'en parle pas beaucoup. C'est pas un sujet, à l'école, on n'en parle pas beaucoup, même si maintenant, je pense que ça tend à changer. Mais les personnes n'ont pas conscience de ce que c'est la réalité, et parce qu'ils ne le vivent pas. Mais nous, de notre côté, quand on fait des recherches, quand on veut faire des activités, ça peut être contraignant parce qu'on sait que derrière, il faut tout vérifier. Parce qu'on ne peut pas forcément se fier à ce que les gens pensent être accessible.
Donc, si je comprends bien, ce que vous conseillez, c'est vraiment d'améliorer la communication autour de l'accessibilité. Parce que parfois, ce qui est annoncé comme, entre guillemets, adapté, ne l'est pas forcément dans la réalité.
Complètement. Moi, j'ai le souvenir d'une fois où j'étais à Paris, justement. Et donc, je regarde, je vois que la chambre, elle est adaptée, tout. Je me dis, super, je téléphone quand même pour être sûr. Je téléphone, oui, oui, pas de problème, la chambre est adaptée, tout. Je vois que la salle de bain, c'est bon. Je me dis, bah génial, parfait. Et j'arrive devant ce fameux hôtel à Paris. Et en fait, il y a deux marches pour entrer dans l'hôtel. Donc voilà, je devais attendre qu'il y avait quelqu'un qui passe, aller demander qu'ils aillent appeler l'accueil, quelqu'un vienne m'aider. Et puis je parle de ça, puis ils me disent « Oui, mais la chambre, elle est bien adaptée. » Je dis « Oui, mais il y a quand même deux marches à l'entrée. » Ils me disent « Ah oui, mais de toute façon, voilà, il y a toujours quelqu'un pour aider ou quoi, mais on n'est pas autonome en fait. Et si j'ai personne à la réception, moi, je fais quoi ? J'attends éternellement qu'il y a quelqu'un. » Donc on n'a pas la même idée de ce qui est l'accessibilité, que ce soit pour les personnes en chaise ou les personnes valides. On n'a pas la même manière de penser, en fait.
Souvent, on ne se rend pas compte qu'avoir accès à quelque chose n'est pas être autonome. Pourtant, accessibilité et autonomie doivent être ensemble complètement. C'est primordial que vous puissiez faire les choses normalement sans avoir à demander l'aide de quelqu'un d'autre. Parce que sinon, ça peut être accessible, mais si vous ne pouvez pas être autonome, vous devez rester à la maison.
C'est ça, complètement.
Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui osent pas forcément justement sortir, essayer des choses, parce que il y a toujours ce risque que même si on se renseigne, etc., que c'est l'accessibilité, pardon, selon la perspective de la personne qui a fait des choses, mais sans savoir si c'était bien pour les personnes concernées. Et c'est, je pense, un peu un problème qui se voit dans différents endroits. C'est que il y a des initiatives qui sont faites et c'est très bien. Mais ça a souvent été fait selon le prisme de la personne qui le fait et sans juste demander à une personne en fauteuil roulant ou une personne aveugle, hein, parce que c'est pareil. Enfin, c'est des besoins qui sont différents. Mais juste de voir avec une personne concernée si ça correspond à ses besoins. De pas essayer de se mettre à la place en disant « Oui, bon, c'est bon, on a fait ça, c'est accessible. » Non, parfois, c'est pas suffisant. Mais encore une fois, je pense qu'on peut pas en vouloir aux gens parce que on n'en parle pas beaucoup. Et c'est vrai que nous, c'est pour ça aussi qu'on a envie de faire beaucoup de sensibilisation et dès le plus jeune âge dans des écoles parce qu'on se dit que les enfants ou les adolescents d'aujourd'hui, c'est des adultes de demain qui vont avoir une activité professionnelle et qui peut-être se souviendront de « Ah, en fait, un jour, il y a quelqu'un qui est venu à l'école qui était en fauteuil roulant. » Et du coup, nous, quand on va dans les écoles, on les met dans des fauteuils roulants. Et ça, je pense que ça donne aussi un impact qui est différent. Et on espère qu'à travers ce type d'action-là, ça puisse permettre à terme et avec le temps de faire en sorte que le handicap, ce soit plus quelque chose de caché, de « oh, c'est que quelques personnes », parce qu'en réalité, ça touche quand même pas mal de monde, et que ça puisse devenir quelque chose de normal, de penser à l'accessibilité des lieux, des loisirs, etc., pour que les personnes concernées n'aient plus à presque avoir peur de sortir en se disant « je sais pas, en fait, si je vais pouvoir rentrer de façon autonome, aller aux toilettes », ça, c'est des choses qui sont quand même hyper importantes, quoi.
J'ai une question un peu plus personnelle. Est-ce qu'il y a un moment dans votre couple où votre amour a dû s'adapter au handicap ? Et dans la vie de tous les jours ?
Il y a un exemple, déjà on parlait d'accessibilité. Par exemple, quand on a été chez les parents de Marlène, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont modifié leur salle de bain chez eux pour qu'elle soit adaptée à moi. Et ça, j'ai trouvé juste incroyable en fait. Et puisque finalement, ça peut être aussi des freins de moi me dire... On va aller là-bas, je ne sais pas comment ça va être adapté, je vais devoir me suradapter ou je ne vais pas pouvoir... Et là, c'est extraordinaire de savoir qu'ils ont carrément modifié la salle de bain pour que j'ai tout ce qu'il faut. Donc, incroyable. Donc ça, c'est une barrière qui a été enlevée rapidement.
Et puis, c'est vrai qu'il y avait cette volonté de faire en sorte que tu puisses être bien. Parce que c'est vrai que mes parents, ils habitent en France, c'est à 6 heures de chez nous. Donc c'est vrai que quand on y va pour plusieurs jours. Et eux, ils voulaient nous avoir proches d'eux dans la maison. Parce que sinon, en fait, on aurait dû prendre un hôtel ou un appart, enfin, une location. Parce que, il faut qu'ils puissent avoir quand même les adaptations nécessaires. Et du coup, ça s'est fait avec lui. Mon père étant artisan dans le chauffage et sanitaire, c'est son métier, mais encore une fois, il n'a pas voulu faire des choses sans les faire avec lui, lui demander de quoi il avait besoin, etc. Donc ça s'est fait conjointement, ce qui fait que Aujourd'hui, limite, la salle de bain, elle est même mieux de celle qu'on a à l'arrivée.
C'est clair.
Est-ce qu'il y a des situations où vous avez dû trouver des façons différentes de vous soutenir, de vous montrer votre amour?
Ce que je trouve, ce qui est génial, c'est qu'on est complémentaires et que finalement, quand t'es un qui est plus fatigué, ou moi j'ai des douleurs, souvent au dos, et ben l'autre prend le relais. En fait, et ce qui est génial, c'est que ça se fait naturellement. Ça peut être des périodes où, voilà, où moi je suis plus fatigué, j'ai mal au dos, où c'est Marlène qui prend plus le relais de m'aider plus, et inversement, quand Marlène travaille plus, moi je prends le relais de faire à manger, etc. Et ça, je trouve extraordinaire que chacun fait son maximum pour l'autre et qu'on n'est pas en train de compter les points, finalement, est-ce que Marlène m'aide plus ou moi, est-ce que je l'aide plus? Mais chacun fait le maximum pour aider l'autre, pour le faire grandir, pour le faire évoluer. Et ça, je trouve que c'est vraiment exceptionnel.
Si tu devais t'adresser à quelqu'un à qui vient tout juste de vivre un accident comme le tien, quelle histoire de ton parcours tu lui raconterais pour lui donner de l'espoir?
Il y a un moment très important pour moi, c'est je suis au centre de rééducation. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, j'ai envie de voir comment des personnes qui ont eu un accident, ils vivent après un accident. Et puis, je vais rencontrer deux personnes qui ont 30 ans, ça fait 30 ans qu'ils sont en chaise roulante. Et le premier que je vais voir, je vais le rencontrer, on rentre dans un café. Et en fait, tout le monde nous regarde, deux personnes en chaise qui rentrent, donc tout le monde observe, forcément, c'est différent. Et là, je le vois, il est là, ouais, pourquoi ils nous regardent? Ils n'ont jamais vu deux personnes en chaise et tout. Je le vois comme ça, aigri. Et je me dis, ouais, c'est dingue de réagir comme ça après 30 ans de chaise roulante. Et voilà, on discute et je sens beaucoup encore de colère intérieure, d'agacement. Et bon, première expérience. Et deuxième expérience, je vais voir un monsieur, André. On l'appelle Dédé. Et je vais voir Dédé et je vois que chez lui, il a super bien adapté les armoires. Tout est super bien pour être autonome. Il a justement dans son armoire, quand on ouvre, il y a une tige qui tire et il y a ses chemises qui étaient accrochées tout en haut de l'armoire qui descendent. Qui peut prendre ses chemises, les remonter. Je sors avec lui, je vois qu'il connaît tout le monde en ville de Sion. On va même boire un verre le soir. Et aussi, tout le monde vient lui parler, discuter. Il fait des blagues, il rigole de tout. Super joyeux. Et en fait, les gens me racontent qu'ils connaissent Dédé, qu'en fait, il a tout le temps une fille sur les genoux. Et ça me fait rire, en fait. Et je me dis, en fait, ces deux exemples sont incroyables. À ce moment-là, dans ma tête, je me dis, mais j'ai deux choix. Soit je finis ma vie aigri comme ça, je me dis, ah, j'ai pas de chance, je suis en chaise, pourquoi les gens ils me regardent, il faut pas qu'ils me regardent, et je reste dans cet état d'esprit-là, ou soit je fais le choix d'être comme Dédé, d'avoir toujours quelqu'un sur les genoux, une fille sur les genoux, et je fais le choix de rigoler tout, de sortir, d'être joyeux avec les gens. Donc à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, en fait, c'est une question de choix. Et j'ai ces deux choix devant moi. Qu'est-ce que maintenant je choisis pour mes prochaines années? Et donc, ça a été un déclic pour moi de me dire, mais je veux être comme Dédé, en fait. Je veux être joyeux, je veux sortir, je veux rigoler. Je veux, en fait, que ma vie, elle ne soit pas différente que la vie que j'aurais eue si je n'avais pas eu d'accident. Donc, le message que j'ai envie de transmettre à travers ça, c'est que finalement, on a toujours le choix. Il y a toujours des possibilités. Et que oui, ce n'est pas facile. Oui, c'est difficile. Il y a des jours où tu en auras marre, où tu ne comprendras pas pourquoi cet accident t'est arrivé, pourquoi c'est aussi difficile, pourquoi tu as des infections urinaires, pourquoi tu as des douleurs. Mais finalement, il y a aussi des choses incroyables qui arrivent quand on dépasse les difficultés, les challenges. Il y a des choses merveilleuses. Et moi, je me raconte, je me dis, OK, j'ai été dans... Finalement, c'est la merde, c'est difficile. Mais finalement, c'est aussi le meilleur engrais pour faire pousser les plus belles choses. Donc, je me répète ça. Même les moments les plus durs, je me dis, OK, maintenant, c'est difficile. Mais si j'arrive à dépasser ça, il va y avoir des choses incroyables derrière. Et il y a toujours une solution, il y a toujours un cadeau, chaque épreuve, chaque difficulté. Et de garder ça en tête, quand j'avais des épreuves, je me disais, mais ok, maintenant c'est dur, tu as l'impression que tu ne vas pas trouver de solution, tu ne vas pas pouvoir avancer, mais garde en tête, il y a un cadeau. Et qu'un jour, tu vas le voir, ce cadeau. Et aujourd'hui, je le vois, là, ça fait 14 ans que je suis en chaise roulante, mais je me dis, l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui, c'est juste incroyable. C'est génial, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai appris sur moi-même et comment j'arrive à gérer les difficultés, les challenges dans ma vie aujourd'hui, ça me paraît simple aujourd'hui. Donc vraiment de garder cet état d'esprit qu'il y a toujours un cadeau, peu importe les difficultés, et que tu vas pouvoir en faire une force un jour dans ta vie.
Tous les deux, vous intervenez aussi dans des écoles pour sensibiliser les jeunes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire et comment ça se passe quand vous êtes face à une classe?
Alors c'est hyper riche ce genre d'expérience. Moi, au départ, la première fois que toi, t'es intervenue au cycle, j'étais juste spectatrice. J'étais au fond de la salle, toi, t'intervenais avec un ami. Et puis, au final, pendant la pause, je me suis rendu compte que y a des jeunes qui venaient me voir pour me poser des questions, justement, comment on s'était rencontrés, est-ce que c'était pas trop difficile d'être avec quelqu'un qui est en chaise roulante, etc. Et c'est ce qui nous a donné l'idée de dire, là où moi, je pensais pas forcément avoir de valeur ajoutée dans son histoire, ça amène une autre perspective et c'est de montrer que tu peux être en fauteuil roulant et être en couple, il n'y a aucun souci. Et que ça amène aussi des questions, encore une fois, sur la vie à deux. Et on se rend compte que les jeunes ont des questions qui sont très pratico-pratiques. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que une des premières fois quand on a intervenu, une des premières questions, c'était « Mais comment tu fais pour aller aux toilettes ?»
Alors qu'en plus, moi j'interviens depuis des années à l'école d'infirmière. On a intervenu ensemble aussi à l'école d'infirmière. Et ce n'est pas dans les premières questions. C'est souvent les questions de la fin qui viennent demander finalement comment tu gères les soins que tu as à faire le matin et tout ça, la vessie, l'autosondage. Et là, c'était une des premières, je crois que même c'était la première question qui a été posée. « Ok, tu nous as dit que tu étais paralysé, mais du coup, comment tu fais pour aller aux toilettes ?» Et c'est incroyable, en fait, cet état d'esprit, cette curiosité. Et finalement, il n'y a pas le tabou qu'il y a derrière. Et c'est tellement sain, en fait. J'ai trouvé que c'était incroyable.
Et puis, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des questions et que même si, forcément, quand on va croiser quelqu'un qui est en fauteuil dans la rue, on ne peut pas lui demander comment est-ce qu'il fait pipi, quoi. Mais malgré tout, ça montre aussi à quel point il y a encore des interrogations et des non-dits, en fait, autour de ce sujet-là. Et que les enfants ont peut-être plus de facilité aussi à poser des questions. Et c'est pour ça qu'on se dit, si on arrive, en fait, à sensibiliser dès le plus jeune âge, encore une fois, ça donnera des adultes demain qui seront à l'aise avec le sujet et qui n'auront pas peur ou qui n'auront pas d'appréhension à aller aborder quelqu'un. Au même titre que les rencontres, c'est vrai que c'est de se dire, oui, il y a un fauteuil roulant, mais il y a d'abord une personne.
Et l'idée, c'était aussi de faire le parallèle de ma différence, ma force. Parce que moi, je suis en chaise roulante, mais dans les écoles, tout le monde est différent et chacun a sa particularité. Donc l'idée, c'était qu'à travers aussi le handicap, que finalement, on accepte toutes les différences. Et ce qui est génial, c'est qu'on a fait aussi un atelier en chaise roulante. Donc au début, c'était d'échanger. Bon, on n'a même pas eu le temps de développer tellement le sujet, vu qu'il y avait tellement de questions. Ils sont même restés à la récré, ils ne voulaient pas sortir. Ils sont restés pour poser un maximum de questions. Et après, l'idée, c'est qu'ils ont fait un parcours en chaise roulante, soit en chaise roulante, donc faire des slaloms. On a fait aussi un jeu de sport de basket, donc ils ont pu essayer aussi avec des chaises de basket. Et aussi avec un bandeau sur les yeux, de pouvoir faire des slaloms, essayer de voir les obstacles avec quelqu'un qui les accompagnait. Donc c'est ça aussi qu'on a fait. Et puis à la fin, de pouvoir avoir un retour sur qu'est-ce qu'ils ont ressenti en fait, d'être en chaise roulante. Comment ils voyaient les choses et quel lien ils ont aussi avec le handicap. Parce que des fois, ils ont des gens de leur famille. Ça peut être une grand-maman qui est en chaise roulante, en rollator. Donc de parler aussi de toutes ces choses-là.
Puis on leur pose aussi la question avant de commencer de quel est leur ressenti ou l'image qu'ils ont du handicap. Ils le notent ils mettent quelques mots sur un bout de papier et puis on fait le même exercice à la fin de la journée. Et c'est hyper intéressant de voir que ça a changé un peu là. Alors après en 2-3 heures, on fait pas des miracles non plus, mais ça leur montre quand même que il peut y avoir de la joie, de l'amusement, qu'on puisse être à l'aise aussi de rencontrer quelqu'un qui est à l'aise avec son handicap, à l'aise avec les autres, mais de quand même transmettre ce message que ça ne se fait pas du jour au lendemain et qu'on peut tomber sur des personnes qui sont en situation de handicap ou même d'autres personnes qui ne sont pas encore assez à l'aise et qui n'ont pas encore fait tout ce travail d'introspection que toi, tu as mis des années à faire et qui fait qu'aujourd'hui, tu es à l'aise et ça se voit, ça se ressent. Et c'est vrai que ça, tu le dis aussi souvent, c'est que au début, quand tu croisais des regards, tu les prenais presque de façon négative parce que toi, tu n'étais pas encore assez à l'aise intérieurement avec ton handicap et ta nouvelle manière d'être. Et c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qui a un impact. C'est qu'en fonction de comment on se sent, nous, ça va avoir un impact sur la perception des autres par rapport à nous et puis à l'impact qu'a le regard de l'autre sur nous. Comme mon histoire du kayak... un jour lambda, je l'aurais très bien pris. Ce jour-là, c'était pas le bon jour, je l'ai mal pris. Donc ça, c'est de voir qu'il y a tout un parcours que ça prend du temps et qu'il faut aussi accepter la vulnérabilité de la personne à l'instant T, qui est peut-être pas encore assez à l'aise, etc. Et puis de juste prendre la personne pour ce qu'elle est à l'instant T, et puis de choisir de l'accompagner si elle le souhaite. C'est vrai que moi, je suis arrivée dans ta vie à un moment où tu avais déjà fait le plus gros du travail, donc il n'y a pas eu de grosses difficultés par rapport à comment est-ce que tu te perçois, le côté physique aussi, parce que ça aussi était, un gros challenge pour toi, d'accepter un nouveau corps, etc. Donc,
Marlène, toi, tu es arrivée dans la vie de Baptiste à un moment où il avait déjà fait un gros travail sur lui. Mais toi, ça a été quoi ton chemin? Comment ça s'est passé pour toi, ce parcours vers lui?
Alors, étant donné que lui, le travail avait déjà été fait, pour moi, par rapport à lui, c'était fluide, on va dire. Et c'est vrai que moi, le fait de voir tout le chemin qu'il avait parcouru, qui est beaucoup de résilience aussi dans son quotidien, ça me fait travailler sur moi, forcément. Moi, je suis encore parfois dans ce côté un peu colérique de l'accessibilité, les gens qui se mettent sur des places handicapées alors qu'ils ont... Et ça, moi, je pourrais encore crever des pneus, je pense, aujourd'hui. Cette phase-là, elle est dépassée. Mais ça m'a aussi permis de prendre un virage professionnel parce que avant qu'on se rencontre, moi, j'étais dans le marketing, la communication, et ça faisait un certain temps que je trouvais plus forcément de sens dans ce que je faisais. Et quand on a commencé à faire ces interventions ensemble, je me suis dit, c'est ça. Quoi de mieux pour trouver du sens que d'avoir un impact dans la vie des gens, potentiellement, si on voit un peu plus grand dans la société, pour faire en sorte que ce soit mieux accepté, etc. Et c'est vrai que du coup, ça me fait beaucoup travailler sur moi aussi. Donc, c'est que du positif.
Et pour l'anecdote, justement, la première fois, j'intervenais à l'école d'infirmière où Marlène était là et je lui dis, elle était intéressée à venir voir. Je lui dis, viens seulement voir. Donc elle était avec les infirmiers et les infirmières. Et puis je répondais aux questions. Puis à un moment, il y a une question sur la sexualité. Et puis je commence à répondre un peu. Puis je dis, il faut demander à madame, elle est mieux placée pour répondre aussi sur ce sujet de la sexualité. Donc elle était là. Puis j'ai vu qu'elle a super bien répondu, qu'elle était à l'aise. Et puis tu m'as dit que t'avais bien aimé, et c'était aussi ça le départ, de se dire, il y a vraiment quelque chose à faire ensemble. Parce que moi, c'était un rêve, en fait. Ça fait des années que je me dis, ce serait génial de pouvoir intervenir à deux, parce que tout ce qu'on partage ensemble, elle voit, en fait, par tous les phases que je passe, tout ce que j'essaye de dépasser. Il y a tous les obstacles que toi, tu vis, t'es confronté aussi, comme tu disais, au regard des gens. Donc... je rêvais, et c'est génial de pouvoir le faire aujourd'hui à deux, quoi.
Puisqu'on parle de parcours de vie, est-ce que vous avez des rêves que vous n'avez pas encore réalisés?
Des envies et des rêves, on en a plein qu'on n'a pas encore réalisés, mais on sait que on va réussir à le faire. Après, moi, j'ai pas ce ressenti de limite du fait qu'il est en fauteuil roulant. C'est différent, faut s'adapter, faut trouver d'autres solutions. Mais j'ai pas aujourd'hui ce sentiment de me dire que parce que je suis avec lui et qu'il est en fauteuil roulant, il y a des rêves que je vais pas pouvoir réaliser. Bien au contraire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça m'a donné plein de perspectives et ça m'a donné l'envie de profiter encore plus, j'avais déjà conscience un petit peu de ça, mais que la vie peut basculer du jour au lendemain, et de se dire que c'est important à la fin de la journée de pouvoir se dire que on est satisfait de ce qu'on a vécu et que on avance progressivement vers nos projets, vers nos envies, quoi.
Et moi, c'est une vraie question que j'ai eue justement après l'accident, de me dire je peux plus rien faire. J'étais passionné de moto, je me suis dit ça va être compliqué. Je me suis rendu compte que non, c'était possible. J'ai commencé à aller rouler avec un copain. Il m'a pris derrière lui. Et il m'a attaché, on allait rouler en moto, donc j'ai pu revivre aussi cette passion-là. Plus tard, j'avais même acheté pendant une période, j'avais une moto à trois roues, un Can-Am avec deux roues devant, un roue derrière, donc je me suis rendu compte que c'était possible. Un autre rêve que j'avais avec mon ami Jonas, c'était de décoller en parapente à 4000 mètres d'altitude. On s'est dit, ouais, c'est fou, on rêvait comme ça, on discutait. Puis à un moment donné, il me dit, pourquoi on le ferait pas? Je dis, on peut essayer, au pire, on n'y arrivera pas. Et puis petit à petit, on a réussi à trouver les bonnes personnes, les bons interlocuteurs, à trouver des personnes, des pilotes, à trouver aussi pour monter à 4000 mètres, on voulait faire une luge, une sorte de luge et qui me tire en haut. On s'est rendu compte que c'était un peu trop dangereux. Donc on a dû trouver aussi une compagnie d'hélicoptères qui était d'accord de nous amener là-haut, Air Zermatt, qui normalement font que du sauvetage. Et là, ils ont accepté pour ce projet-là de nous aider à monter à 4000. Et puis, on a trouvé des personnes pour filmer aussi, pour mettre ça en vidéo. Pour justement, l'idée, c'était de montrer à des personnes qui ont un accident, une maladie, ben c'est possible. C'est possible d'avoir des rêves, des projets et de les réaliser, en fait. Et aujourd'hui, moi, mon rêve et le rêve qu'on partage ensemble, c'est de pouvoir justement parler d'accessibilité. C'est de pouvoir créer des endroits où les personnes, elles puissent aller. Elles puissent voyager, par exemple, de trouver un lieu qui est un peu atypique, où quand elles arrivent, elles ont tout. Tout ce qu'il faut. Elles savent vraiment qu'il n'y a pas de marche pour rentrer dedans, qu'il n'y a pas de baignoire, que vraiment c'est bien adapté, il y a toutes les dimensions. Et puis qu'il y a quelque chose qui est assez global, c'est que quand elles arrivent là-bas, sur ce lieu, c'est qu'elles aient tout à disposition, avec un calepin en disant, voilà, il y a tel restaurant, là c'est bon, il y a des toilettes qui sont accessibles, là il y a tel transport en commun, c'est bon, vous pouvez y aller, il y a une rampe, le train, voici la liste des musées. Enfin voilà, d'avoir quelque chose d'assez global qui englobe toutes les activités qui sont possibles et réalisables. Même le rêve ultime, ce serait qu'il y ait même du matériel médical qui puisse être acheminé avant, que la personne n'a pas besoin de se transporter tout son matériel médical, qu'elle puisse vraiment partir l'esprit libre. Voilà. Et que même si elle aurait besoin d'une personne pour l'aider, qui est aussi sur place, il y ait par exemple une infirmière ou voilà, des gens pour accompagner si besoin. Ça, ce serait vraiment le rêve. Si on a une baguette magique... Mais déjà, l'idée, ce serait de pouvoir trouver peut-être des gens qui ont déjà des lieux qui sont accessibles et qui aimeraient mettre à disposition de personnes en chaise. Peut-être qu'ils les louent déjà et qu'ils se disent « Ah bah tiens, peut-être que ça pourrait aussi jouer pour des personnes en chaise. » On pourrait essayer de voir si c'est bien adapté et puis mettre en avant que c'est adapté aussi pour des personnes en chaise roulante.
Et de communiquer par les bons leviers, enfin par les bons canaux de communication, parce que c'est vrai que aujourd'hui, on a accès à des sites grand public quand on veut partir quelque part. Mais c'est vrai qu'après, toute la partie accessibilité, bah, on coche accessible, mais en fait, on ne sait pas ce que ça implique derrière. Donc là, c'est vrai que nous, l'idée, ce serait de vraiment pouvoir valider un peu tous les critères d'accessibilité en amont, parce qu'on sait que c'est une charge mentale pour les personnes de devoir se renseigner. Souvent, les personnes partent dans les mêmes endroits d'année en année parce qu'elles sont sûres. Mais du coup, ça enlève un petit peu de la notion de découverte un peu du monde et puis de partir à l'aventure. Mais qu'au moins, les besoins de première nécessité, on va dire, et puis les besoins essentiels soient couverts. Et puis au-delà de ça, c'est aussi de se dire que dans notre idée, c'est vraiment de proposer des vraies expériences. Parce que c'est vrai que souvent, les lieux qui sont accessibles, enfin, il y en a certains, c'est voilà, on a le matériel qui est là, on a un siège de douche, on a les bars, etc. Mais c'est de se dire, y a des personnes qui ont aussi peut-être l'envie de vivre des expériences. Par exemple, j'en sais rien, une yourte accessible où on pourrait être en pleine nature, pouvoir méditer, peut-être rencontrer d'autres personnes si on a envie. Mais de se dire, c'est pas juste un lieu accessible, c'est un endroit qui propose une expérience globale où, en tant que valide, des retraites de yoga, de méditation, il y en a à l'appel. Mais après, intégrer la notion d'accessibilité là-dedans, c'est pas le même enjeu. Et puis de le faire avec une personne qui est concernée et qui est tout à fait en mesure de voir quels sont les besoins, c'est quelque chose qui nous motive vraiment beaucoup, quoi. Donc c'est un projet sur lequel on avance.
Marlène, Baptiste, merci beaucoup pour votre temps. C'était vraiment très intéressant de discuter avec vous.
Merci à toi.
À toi.
Merci Marlène, merci Baptiste d'avoir partagé votre expérience avec nous. Et merci à vous, chers auditeurices, d'avoir suivi cet épisode d'Écouter pour voir. Nous remercions chaleureusement Sébastien Kessler de la société IDGO pour ses précieux conseils et son soutien depuis le début de ce projet. Si vous vivez une situation similaire à celle de Marlène et Baptiste, ou si vous êtes proche d'une personne concernée, sachez que le Centre Suisse pour Paraplégique de Notteville et la Fondation Suisse pour Paraplégique sont là pour vous aider et vous renseigner. N'hésitez pas à partager vos commentaires ou vos ressources avec nous en nous écrivant à contact@association-nuance.ch.